Je vais d'abord donner la parole à Camille Ricci. À toi, Camille.
Nous avons décidé de cet ordre puisque je vais surtout et principalement parler de la nostalgie, même si justement je vais en venir ensuite à la question de l'irréversible et montrer que la nostalgie que nous souffrons, la nôtre, celle des modernes, n'est pas nécessairement celle qu'a pu vivre les anciens. J'aurais pu d'ailleurs intituler conférence de la nostalgie des modernes et de la nostalgie des anciens, comme l'a fait Benjamin Constant à propos de la liberté. Car au fond, il y a une histoire des sentiments exactement comme il y a une histoire des idées. Genre, les sentiments aussi ont été inventés, d'une certaine manière. Alors, la nostalgie, bien sûr, a des racines dans la nature de l'homme, mais en un sens seulement. En un autre, la nostalgie, c'est une invention grecque. Ça a été inventé par les Grecs, comme le charme de la campagne a été inventé par les Romains. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre l'Antiquité grecque pour que ce sentiment s'épanouisse, se fasse pleinement ressentir. Alors, il ne faut pas simplement dire que le mot, même s'il est venu effectivement très tard, a été forgé à base du grec ancien, c'est-à-dire en associant les termes de nostos, retour, et d'algie, douleur, mal, pour signifier littéralement le mal du retour. Il faut dire que la nostalgie est un sentiment qui a fructifié dans cet âge de l'humanité qu'était l'Antiquité et dans ce peuple de l'humanité qu'était le peuple grec. C'est-à-dire que si on veut savoir exactement ce que ça voulait dire, il faut écouter d'abord les Grecs. De la même manière que si vous voulez savoir ce qu'est un Dieu unique et d'élection, eh bien, il faut se tourner vers le peuple d'Israël. C'est pas compliqué. Hein. Donc c'est là, par la voix des Grecs, que ce sentiment nous a été transmis, nous a été dit, nous a été écrit, chanté, que ce mal, si je puis dire, nous a été communiqué comme par contagion, effectivement. Car aujourd'hui encore, et pour moi l'étymologie justement qui s'est fait uniquement à partir du grec, en est le témoin irrécusable, on ne peut pas parler de nostalgie sans parler le langage de l'ancienne Grèce, sans entendre la voix éternelle d'Homère qui lui avait donné son sens plein. C'est-à-dire par la figure d'Ulysse, qui, d'où l'a appris, et dont le destin, je cite Homère, était de revoir les siens, de rentrer sous le toit de sa haute maison au pays de ses pères. Et ce sont les mots qu'il adresse à la déesse Calypso, qu'il avait rendue captive pendant 3 ans sur son île, et il lui répond, le seul vœu, c'est dans le chant 5, le seul vœu que chaque jour je fasse est de rentrer là-bas, de voir en mon logis la journée du retour. Il faut quand même s'en étonner un peu. C'est-à-dire que quel charme sa terre natale a-t-elle exercé sur lui pour qu'il ait préféré rentrer chez lui plutôt que l'immortalité que lui offrait de réaliser Calypso s'il y renonçait. C'est-à-dire que son mal, le mal d'Ulysse, était si grand qu'il a préféré mourir pour sa patrie, dans sa patrie, plutôt que de vivre éternellement en compagnie d'une déesse à la beauté sans pareille. Moi, personnellement, je m'en étonne un petit peu, car j'en ai connu beaucoup qui ont troqué leur vieille Pénélope pour moins que ça. Une jeune nymphe suffisait sans qu'on leur demande d'être déesse pour autant. Bon. Donc d'ailleurs, je vais y revenir tout à l'heure, car ça a un rapport en fait avec notre sujet, et laisse déjà deviner le fort contraste qui doit nous séparer des Grecs. C'est-à-dire que pour l'instant, je veux bien qu'on m'apprenne que nous devenons de plus en plus nostalgiques, je veux bien qu'il y ait depuis quelque temps une mélancolie française, que c'est peut-être un signe inquiétant que depuis l'an dernier, les audiences de Radio Nostalgie aient dépassé celles d'Europe 1. Bon, mais soyons honnêtes, je ne vois pas aujourd'hui quelqu'un qui soit capable de descendre jusqu'à la profondeur du mal qu'a dû éprouver Ulysse. quel attachement profond les Grecs avaient-ils dû avoir avec leur propre foyer, à leur propre patrie, pour que chaque fois qu'ils la quittaient, ils s'en soient rendus à ce point malades, pour que le pire des châtiments soit pour eux l'exil, pour que, hors de la cité, il n'y ait eu que barbarie et épouvante. C'est en un sens digne d'étonnement et d'admiration. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'équivalent dans la Rome ancienne. Les Romains, ils ont fondé un empire. C'est-à-dire qu'eux n'aspiraient qu'à s'étendre et non jamais à revenir. Pourquoi ? Parce qu'en un sens, ils se sentaient partout chez eux. Ils apportaient avec eux le droit et quel que soit l'endroit où ils étaient, aussi reculés qu'ils étaient, eh bien, ils se sentaient toujours chez eux. Hein. Les Grecs, eux, n'ont jamais fondé d'empire. Ils ne le pouvaient pas. Seulement des cités, pour la raison, d'un sens, qu'ils ne songeaient jamais qu'au retour. Nostos. C'est-à-dire qu'à peine ils s'éloignaient de la cité, qu'ils souffraient de ce mal étrange, la nostalgie. Alors, je ne veux pas dire qu'après, on n'ait pas éprouvé ce sentiment. Je ne veux pas dire que les Latins ou d'autres après eux n'aient jamais ressenti de nostalgie. Mais vous voyez, quand cela leur arrivait, ils étaient Grecs. Du moins, ils devaient parler le langage des Grecs desquels ils avaient reçu le sentiment. Vous prenez Ovide, ces fameuses lettres du pont, les pontiques. Ovide est forcé à l'exil à Tomie et il avait la nostalgie de Rome. Mais quand il s'agit de s'en plaindre, il n'a pu s'en plaindre et exprimer sa souffrance qu'à travers les symboles que lui offrait l'Odyssée. Je cite Ovide, « La froide raison d'Ulysse n'est pas douteuse, et cependant, le plus grand désir du roi d'Ithaque était d'apercevoir la fumée du foyer paternel. Je ne sais quel charme possède le sol natal pour nous captiver et nous empêcher de l'oublier jamais. » Je vais plus loin pour dire que, si je puis dire, le peuple grec, c'est d'abord et avant tout un peuple nostalgique. Si la philosophie elle-même a été d'invention grecque, c'est peut-être qu'elle-même n'a pu éclore que du sein d'un peuple qui était épris de nostalgie et pour lequel le retour était toujours plus important que l'aller. La pensée a dû commencer, d'ailleurs c'est une suggestion que nous fait Pascal Quignard dans Mourir de pensée, que je trouve formidable, la pensée a dû commencer de façon très animale. C'est-à-dire que la pensée, d'abord, n'a peut-être d'abord servi qu'à revenir sur ses pas, par le flair, les signes, rentrer au foyer, jusqu'au foyer qu'on avait quitté. Et c'est la raison pour laquelle la pensée, dont le terme grec est nous, le nous, s'est appuyée sur le nostos, nous, nostos. En sorte que ce qui anime la philosophie, ce dont elle procède, eh bien, réside dans le mouvement nostalgique de la pensée. Elle est toujours sur le chemin du retour. On peut prendre 1000 exemples. Platon. Pour Platon, apprendre, c'est se souvenir, c'est se ressouvenir. La vérité, pour un grec, c'est se remémorer, la mémoire, aletheia, contre l'oubli. C'est-à-dire que pour Platon, l'âme a connu la vérité avant de naître dans un corps qui lui a fait oublier. En sorte que le désir qui porte l'âme vers la vérité, et nous donne le pressentiment de nos pensées futures, eh bien, c'est une nostalgie. Puisque, au fond, lorsque nous découvrons la vérité, pour un grec, nous ne faisons que réapprendre ce que nous avions oublié. Bref, pour un grec, nous ne devenons nous-mêmes qu'en revenant aux principes que nous avions quittés. Donc, il s'agit toujours de faire retour. La philosophie ne pense pas du tout, quand elle est grecque, partir quelque part, s'aventurer. Elle n'est pas du tout cartésienne. Elle s'égarerait, en quelque sorte. Elle ne parvient d'ailleurs, pour un grec, à penser véritablement que si elle s'assure du retour. Hein ? Puisque c'est le mal du retour, ou le désir de revenir à son foyer, qui anime le mouvement de la pensée. En sorte que, effectivement, quand on pense, on avance qu'en régressant. Comme l'animal, en revenant sur ses pas. Et il n'y a de bonheur que dans le retour. Autrement dit, vous voyez, si la nostalgie est le mal grec par excellence, dont pas même l'âme ne manquait de souffrir, eh bien, la philosophie devait être bien autre chose qu'une simple consolation, qui aurait servi à compenser le regret de ce qui a été perdu. La philosophie pour un grec s'est proposée radicalement d'être une cure, la cure véritable, la seule capable de guérir du mal, qu'était la nostalgie. Donc, vous voyez, l'Odyssée, tout y est. L'Odyssée, c'est vraiment ce qui demeure la trame, le symbole dont la philosophie ne s'est pas départie. Et même quand saint Augustin parle de la cité de Dieu, de la cité céleste, à laquelle le chrétien n'aspire qu'à revenir, il continue à parler grec. Il continue en quelque sorte à parler le même langage. En cela, on voit que le christianisme a hérité de ce sentiment nostalgique que les Grecs avaient inventé et qu'en un sens, si je puis dire, ils n'ont fait que maximiser, infinitiser. C'est-à-dire qu'un chrétien, au fond, il est nostalgique de la cité céleste et la cité terrestre devient en quelque sorte elle-même le lieu d'exil et de souffrance dont le chrétien ne peut se libérer que par la mort. C'est le suprême retour. Si j'ai insisté sur le sentiment originaire de la nostalgie, et donc sur le sens exact que les Grecs lui ont communiqué, c'est pour que nous nous surprenions à voir combien il nous est étranger. Nous, modernes, ça veut dire que nous ne le ressentons pas du tout comme ça. Notre nostalgie n'a rien à voir. Elle n'est pas la nôtre. Et la nostalgie des Grecs, justement, elle se reconnaît à quoi ? À ce qu'il n'y entre aucune considération autour du temps, autour de l'irréversible. Cette notion, elle est d'abord exclusivement spatiale. Or, l'espace, on le sait, est réversible. C'est même ce qui est réversible par excellence, contrairement au temps. Si je me déplace d'un point B à un point A, je peux toujours revenir au point d'où j'étais parti, à l'image exactement d'Ulysse, qui, depuis Troie, est retourné dans sa bien-aimée île d'Ithaque. C'est-à-dire que le temps, ici, n'a rien à voir avec l'affaire. Le temps peut éventuellement le retarder, il aurait pu même lui manquer, mais il ne pouvait pas, par lui-même, l'empêcher d'y retourner. Et de la même manière, quand la philosophie distingue un monde intelligible et un monde sensible, quand le christianisme distingue une cité céleste et une cité terrestre, c'est encore un langage spatial, métaphoriquement spatial. Mais il s'agit bien d'un lieu. Donc le temps peut signifier notre chute, notre exil, mais il n'est pas, si je puis dire, la cause du mal dont l'âme souffre. Et le temps n'a même pas davantage de prise sur le lieu, sur le principe vers lequel l'âme désire faire retour. Bien, la nostalgie dont nous souffrons, c'est-à-dire celle des modernes, elle n'a donc plus rien à voir. Pourquoi ? Parce qu'elle, elle est essentiellement temporelle. C'est une notion, d'abord, essentiellement temporelle, grevée par l'irréversibilité. C'est-à-dire que cette nostalgie qui est la nôtre nous condamne à désirer un pays dans lequel nous ne retournerons jamais. Et en ce sens, notre nostalgie, au fond, est rigoureusement contraire à la précédente. Je veux dire, notre nostalgie va en direction exactement inverse à la précédente, puisqu'elle s'inscrit, si je puis dire, sur le chemin de l'aller. Elle ne cesse d'aller de l'avant, alors que, si je puis dire, vous l'aviez vu, la précédente était toujours inscrite sur le chemin du retour. Tout se passe comme si, nous, au lieu de chercher un remède qui pût nous guérir du mal dont nous souffrions, hein, la philosophie par exemple pour les Grecs, nous n'avions voulu garder que cette souffrance, après s'être bien assuré qu'aucun remède ne pouvait nous en guérir. C'est-à-dire que c'est à tel point que, honnêtement, il faudrait se demander si c'est encore bien de la nostalgie dont il s'agit que la nôtre. Et pourquoi nous continuons à parler une langue grecque que nous ne comprenons même plus ? C'est-à-dire qu'il doit bien y avoir de l'ironie dans toute cette histoire. Il doit y avoir de l'ironie et un peu de cruauté dans le sort qui nous a été réservé, à nous modernes, pour s'être infligé à nous-mêmes un mal dont nous savons pertinemment qu'il n'y a aucun moyen pour nous d'en guérir, d'y échapper, et que nous avons peut-être secrètement choisi pour la raison qu'il était incurable. Il faut s'interroger tout de même. C'est-à-dire que l'ironie de cette nostalgie, eh bien, c'est au fond une manière de présenter cette nouvelle humanité que nous sommes devenus sous un jour qui serait, si je puis dire, comique si elle n'était pas tragique. D'où vient en effet le caractère étrange, pour ne pas dire absurde, de la nostalgie dont nous souffrons au regard de toutes les anciennes humanités telles qu'elles l'avaient éprouvée. C'est que ce retour, quel qu'il ait pu être, quelle que soit la manière dont on peut l'imaginer, et qui constituait, c'était la citation même que Robert Maggiori donnait, le remède infaillible à la nostalgie, eh bien, ce retour, pour nous, en fait, on ne le désire pas du tout. Nous ne le désirons plus du tout. Nous n'avons plus du tout envie de rentrer. Il y a un très beau passage, justement, dans L'irréversible et la nostalgie de Yankelevitch, puisqu'il faut toujours se débattre ici avec l'Odyssée, nécessairement, où il va revenir sur l'Odyssée pour réintroduire justement tout le mordant de l'ironie moderne que nous évoquions. Il se propose, Yankelevitch, d'imaginer ce qui se passe une fois rentré. Il s'imagine le lendemain du grand Nostos, ce qui est arrivé après les retrouvailles dans le palais d'Ithaque. Il se demande ce qui a pu se passer une fois le rideau baissé, quand devait s'inaugurer l'ère d'un bonheur sans nuages et sans histoire. Et donc il se propose d'écrire à sa manière, je le cite, le 25e chant de l'Odyssée, celui qui n'existe pas. Et qu'est-ce qu'il imagine ? Ulysse est à table, il se tait, il n'a plus rien à souhaiter, il s'ennuie. Il s'ennuie. Et à quoi pense-t-il ? À Calypso. À Calypso, à Circé, à Nausicaa, à toutes les occasions perdues, à toutes les occasions manquées qui ne reviendront plus. Je le cite, « Le lendemain même du retour, la déception a supplanté la nostalgie. Au fond, Ithaque n'était qu'un prétexte. Il sait à présent que la nostalgie, et c'est exactement la même citation, comme quoi nous nous retrouvons, n'est pas seulement un mal qui a besoin d'un remède, elle est encore l'inquiétude causée par l'insuffisance de ce remède. » Voilà, nous sommes des Ulysses modernes, quelque chose quand même de très bizarre. Nous sommes des Ulysses modernes qui sommes venus après la déception, qui savons qu'au retour ne nous attend que l'ennui, et même peut-être la mort. Donc on n'a aucune envie. C'est-à-dire que nous avons reçu des Grecs le sentiment de la nostalgie, mais voyez, nous y avons introduit toute la cruauté de l'ironie. Notre désir n'a plus d'objet, il est indéterminé. Il est celui d'un ailleurs toujours autre, d'un pays qu'on n'aura jamais connu. Pourquoi ? C'est très curieux, parce que nous préférons le mal au remède. Le remède serait pire que le mal. Nous préférons le mal au remède, c'est-à-dire nous préférons la souffrance à l'ennui. Nous préférons souffrir que de nous ennuyer. Eh bien, du coup, ce que nous redoutons le plus, peut-être, c'est d'être rentré, de mourir d'ennui. Donc, vous voyez, quand nous sommes nostalgiques, nous, aujourd'hui, nous ne désirons pas tant revenir que partir. C'est le chemin inverse. Que partir et partir toujours et se délecter secrètement de l'exil et de l'absence. Au fond, on se dit Calypso est encore plus belle à présent qu'elle est loin et n'appartient plus qu'au passé. Le souvenir qu'en garde notre Ulysse moderne est d'autant plus doux qu'il lui assure un retour impossible. Je t'aime, mais de loin. C'est cette contradiction dans laquelle nous avons sourdement voulu nous installer et qui a permis justement à la nostalgie de se nouer à l'irréversible. Car, j'y insiste également, vous avez vu que la nostalgie, au fond, n'avait d'abord rien à voir avec l'irréversible, mais je pourrais en dire autant, l'irréversible, d'abord, n'a rien à voir avec la nostalgie. Et j'en veux pour preuve, évidemment, Bergson. J'en dirai juste un petit mot, mais Bergson, qui a été l'un des maîtres de Yankelevitch, c'est justement le philosophe qui a introduit pour la première fois, véritablement, le temps dans l'histoire de la philosophie. C'est lui qui a affirmé la réalité du temps en vertu de la conscience irrécusable que nous avions de durée. Or, j'ai même vérifié, mais je le savais déjà, le mot nostalgie n'apparaît jamais sous sa plume, dans aucun de ses ouvrages. C'est-à-dire que Bergson sait bien que le temps est irréversible. C'est même lui, en un sens, qui y insistait pour la première fois. Je le cite, « Nous savons bien qu'on ne vit pas deux fois le même moment d'une histoire et que le temps ne remonte pas son cours. » Et pourtant, jamais dans son œuvre, il ne cède à la nostalgie de l'irréversible. Le temps, pour lui, la chose est bien connue, est une création continue d'imprévisibles nouveautés. C'est-à-dire que le passé est associé à un mouvement qui va vers l'avant et qui renouvelle le présent à chaque instant, de telle sorte que ce qui est perdu, certes, n'est pas retrouvé, mais ce qui est trouvé à sa place n'était pas même attendu, et c'est cette joie de l'inouï et de l'inespéré qui nous offre toujours, si je puis dire, de surmonter le possible désespoir qu'entraînerait la perte inconsolable. C'est-à-dire que l'irréversible chez Bergson est lié, non pas au regret, mais à la joie du continuel renouvellement. Il est joyeux, Bergson. Et je crois en avoir trouvé la raison dans une lettre que Bergson adressait à Yankelevitch, qui est formidable, qui date de 1938. Bergson déclare à Yankelevitch, au fond, qu'il ne s'était jamais ennuyé. En fait, il ne savait même pas ce que ça voulait dire, s'ennuyer. Je le cite. « Votre étude sur l'ennui m'intéresse et m'instruit tout spécialement, car l'ennui est un sentiment que je n'ai jamais éprouvé. Et il me semble, justement, qu'il faut peut-être avoir éprouvé l'ennui pour constituer un passé comme une valeur refuge et éprouver la nostalgie. En méditant sur l'irréversible la nostalgie, justement, Yankelevitch ne renie pas Bergson, mais il va adjoindre à la conscience du temps une tonalité affective, eh bien, qui la colore de son propre tempérament et qui lui est probablement venue de son attachement à la philosophie grecque. Il est un Ulysse moderne, et peut-être justement nous aussi, nous allons le voir d'une certaine manière. Et voilà donc le nouage curieux que l'Ulysse moderne, que nous sommes devenus, a effectué entre l'irréversible et la nostalgie. C'est-à-dire que nous ne sommes plus nostalgiques d'un lieu cher à notre cœur, et nous aspirons à y retourner, parce qu'on ne sait même plus ce qu'on désire. Et qu'au fond, c'est plutôt le présent qu'on cherche à fuir, et c'est l'ennui que nous craignons. Mais nous sommes encore nostalgiques, si je puis dire, comme par nécessité. Et donc, il ne nous reste plus alors qu'à être nostalgique de quoi ? Ben, du temps qui passe. Du temps qui passe, en lequel tout s'en va et ne revient jamais. Où il nous est loisible de nous complaire de façon quelque peu morose, puisqu'en effet, là, nous avons l'assurance qu'aucun retour ne sera possible. La nostalgie, pourtant, agit, c'est quand même une maladie. C'est une maladie. Mais ici, c'est une maladie qui nous fait du bien, dont on ne souhaite pas guérir. Quand on écoute Radio Nostalgie, c'est quand même comment se faire du bien avec son mal. Bon. Donc nous sommes conduits à cette définition nouvelle, étrange, que notre modernité a étrangement investie justement en y introduisant le temps. Elle pourrait être la suivante. La nostalgie est le sentiment qui nous vient de notre désir de faire revenir par tous les moyens qu'on a en notre possession, le parfum, la musique, tout ce que vous voulez, ce dont en même temps on est secrètement assuré qu'il ne reviendra jamais. Et il est certain évidemment que l'accélération toujours plus grande dans laquelle nous sommes entraînés, qu'a finement analysé Armut Rosa, ne fait qu'accuser toujours un peu plus l'ambivalence de ce sentiment, pour ne pas dire le paradoxe dont souffre l'homme moderne. C'est-à-dire que notre vie jamais n'a été aussi longue qu'aujourd'hui, jamais elle n'a été aussi riche, variée, et pourtant par ce phénomène d'accélération qui nous donne effectivement une conscience très aiguë du cours irréversible du temps, jamais un homme, une fois arrivé au terme de sa vie, n'a peut-être eu le sentiment de ne pas avoir vécu assez. Voilà. Et du coup, d'être nostalgique de sa propre jeunesse. Il a manqué des choses. Ça, c'est arrivé trop vite. Il y a la nostalgie de l'irréversible. Et comme tout phénomène ambivalent, et c'est ainsi que je finirai par cette analyse, ce sentiment peut se lire à deux niveaux à la fois. C'est pour ça qu'il est étrange, qu'il est paradoxal. C'est qu'on peut le lire sur deux plans. Et c'est ce que nous suggérions lorsque nous disions qu'il donne à voir de l'homme moderne un spectacle qui est à la fois comique et tragique. Car contrairement à l'idée reçue, le comique n'a pas du tout la légèreté du burlesque. Hein, le comique, c'est sérieux, c'est aussi sérieux que le tragique. Et c'est bien, c'est l'idée géniale de Beaumarchais, quand il a écrit sa trilogie, c'est l'idée géniale de Beaumarchais de dire que le comique et le tragique, justement, ne font jamais qu'une seule et même chose. C'est le mot de Figaro. Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Autrement dit, voilà, c'était l'idée de Beaumarchais, mettez ensemble une femme, son amant et le mari cocu, vous faites un vaudeville. Mais ajoutez un couteau dans la main de l'homme trompé, et avec la même histoire, vous faites un drame. Même histoire. C'est-à-dire que, c'est ce que dit Beaumarchais, il y a un fond dont on peut faire avec un égal succès une tragédie ou une comédie. Et justement, il y a une histoire bien connue qui porte précisément sur la nostalgie de l'irréversible. L'étrange histoire de Benjamin Button. Ah oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle raconte l'histoire d'un homme dont la vie a suivi un cours résolument inverse à celle des autres. Il est né vieillard, il est mort en nourrisson. C'est-à-dire qu'en cela, sa vie est une régression. Il suit le mouvement de la nostalgie. Sa vie est une régression. C'est un retour et non pas un aller. Et il semble que cette histoire, effectivement, ait servi à nous rendre plus sensibles le sentiment nostalgique qui peut faire naître le caractère irréversible du temps. Et cette histoire, elle a eu deux versions. Le fond de cette histoire, bien connu, a donné lieu en effet à deux versions différentes. L'une qui en a fait un drame, et c'est le film de David Fisher, de 2008, avec Brad Pitt et Kate Blanchett. Et l'autre version, qui est celle dont le film s'inspire et qu'on doit à Fitzgerald, et qu'on oublie qu'elle était franchement comique. En fait, elle n'a rien à voir. C'est la même histoire, mais racontée tout différemment. Qu'est-ce qui se passe dans la nouvelle de Fitzgerald ? Et j'y insiste d'abord, puisque tout le monde plutôt a à l'esprit le film. Dans la nouvelle de Fitzgerald, écrite en 1920, Roger Button, le père, voit dans un des berceaux Benjamin, son fils, d'une taille déjà extraordinaire, la barbe blanche, recroquevillée. Il y voit un vieillard de 70 ans. Bon, il est d'abord un peu horrifié, hein, d'autant plus que celui-ci commence déjà à lui parler. Il dit « Mais tu es mon père ?» Voilà. Bon, donc il parle déjà, bon, très bien. Donc le père est horrifié, mais il le garde quand même. Bon, je le garde quand même. C'est-à-dire qu'il n'abandonne pas du tout. Hein. Il va faire comme si, comme si de rien n'était. C'était un bébé comme un autre. Je le cite, hein, « Au bout de 12 ans, ses parents s'étaient habitués à lui. De fait, la force de l'habitude est telle qu'il ne le trouvait plus différent des autres enfants. » Mais Benjamin se met à rajeunir et il vit des années de décroissance normale. Normale, vous voyez. À 18 ans, il a l'apparence d'un homme de 50. À 20 ans, il paraît le même âge que son père, et on les croit frères. Et à ce moment-là, il rencontre son épouse, Miss, ici, Moncrieff, qui sera Daisy dans le film et qui sera jouée par Kate Blanchett. Il a le coup de foudre. Et puis, comme elle, à ce moment-là, elle préfère les hommes d'âge mûr, bah, il va mentir sur son âge. Il va profiter de son apparence de vieillard. Bon, très bien. Donc, ils vont se marier, avoir un fils, Roscoe. Benjamin, il s'installe dans la société, il fait fortune. Plus il rajeunit, plus il se sent vigoureux, et plus son père, d'ailleurs, est admiratif. Mais vous voyez, avec le couple, ça se passe différemment. C'est tout le contraire. Ça veut dire qu'avec Moncrieff, Hildegarde Moncrieff, sa femme, au contraire, plus elle vieillit, plus elle s'anémie, moins il en est satisfait. Ça vous rappelle quelque chose, quand même. Cette... Et elle, qui n'avait jamais aimé que les jeunes gens, ne faisait que le mépriser à mesure qu'il rajeunissait. Donc, progressivement, un abîme se creuse, peu à peu, entre eux. Et à leur début, les gens se scandalisaient de voir une jeune femme au bras d'un vieillard, à la fin, oubliant d'ailleurs ce qu'ils avaient dit au début, les mêmes se scandalisaient de voir un jeune homme au bras d'une femme de 45 ans. Benjamin Button part faire la guerre, il paraît avoir 18 ans quand il revient, il perd peu à peu ses souvenirs et meurt. Ça, c'est l'histoire. Pourquoi c'est comique ? C'est-à-dire pourquoi l'histoire ici étrange de Benjamin Button est ici comique ? Ben précisément parce que les personnages ici n'ont pas conscience de l'irréversibilité du temps que nous donne à voir justement Fitzgerald au lecteur. Ils n'ont pas conscience de cette irréversibilité, exactement à l'image du père de Benjamin, qui ne s'étonne plus de voir son fils à 12 ans fumer le cigare à sa fenêtre, hein, comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'ils font tous comme si tout était bien en ordre, comme si tout retournait toujours à sa place, pouvait toujours revenir en son lieu. Benjamin n'a pas conscience de l'irréversible, et c'est parce qu'il ne cesse de régresser, de faire retour, de suivre réellement le mouvement de la nostalgie, que cette nostalgie est comique. Il fait comme si c'était possible. Et son histoire, au fond, ce n'est jamais que la métaphore de notre vie misérable. Enfin, la mienne, si vous voulez. Bon. Son histoire n'est que la métaphore de la vie où chacun veut être vieux quand il est jeune et veut être jeune quand il est vieux. Bon. C'est-à-dire que là, on retrouve vraiment notre Ulysse moderne qui croit pouvoir trouver une source de jouvence en ayant à ses bras une jeune fille. C'est bien le Ulysse dont on a parlé, qui troque volontiers sa vieille Pénélope en échange de la jeune Calypso. Hein ? Benjamin Button est étrange, certes, mais enfin, ce n'est jamais que notre histoire éclairée ici sous un jour grotesque. Ce n'est jamais qu'un homme qui ne veut pas assumer son âge. Et c'est comique. Dans le film, tout change. Et c'est pour ça que le film est aussi génial. Tout est montré, si je puis dire, à un autre niveau, sur un autre plan. Le père, ici, ne veut pas du tout se voiler la face. Il ne veut pas se voiler les yeux. Il ne peut pas faire comme si tout pouvait revenir à sa place. Il est horrifié, et lui, il l'abandonne. il l'abandonne sur les marges d'un hospice. Il ne va pas l'adopter. C'est-à-dire que Benjamin Button, ici, commence par l'exil. Toujours déjà, il commence par l'exil. Il n'aura pas, si je puis dire, de terre natale. Et pour cette raison-là, il ne sera jamais à sa place. Contrairement à l'autre, où on faisait comme si de rien n'était. Il ne sera jamais à sa place, et du coup, il ne cessera jamais de voyager, de partir à l'aventure. C'est-à-dire que ce Benjamin Button est nostalgique d'un lieu, justement, qu'il n'aura jamais connu. Parce que, justement, il lui manque cette terre d'abord première. Et lui, au contraire, par le cours rigoureusement contraint de sa vie, a une conscience très aiguë de l'impossibilité du retour. C'est exactement le contraire de l'autre. Lui, il sait qu'on ne revient jamais. Il aime Daisy. Lui, il aime vraiment Daisy, depuis toujours, mais il ne fera que la croiser une fois, vraiment. Ils ne s'aimeront véritablement qu'une fois, en ce point unique où leur vie, qui vont en sens contraire l'une de l'autre, parviennent à se rejoindre. Et de cette rencontre va naître une fille, mais lui-même encore ne pourra pas faire semblant et partira. Il ne pourra pas faire semblant d'être vraiment le père. Il s'en va toujours, c'est-à-dire que son exil est permanent. Son exil est permanent, il ne fait que croiser les êtres, il sait son retour impossible. Et c'est pourquoi sa nostalgie, elle, est tragique et qu'elle peut tirer nos larmes. C'est la même histoire pour toi. Vous voyez, et donc par ces deux histoires, je voulais montrer qu'en fait, elles n'en font jamais qu'une seule. Et que cette histoire, c'est la nôtre. Qu'il faut lire sur ces deux plans en même temps, parce que notre vie, au fond, elle est toujours comico-tragique. Et il est peut-être parfois, justement, toujours besoin d'en rire pour ne pas avoir à en pleurer. C'est cette absurde nostalgie de l'irréversible qui hante la conscience moderne et que j'ai essayé ici de démêler un petit peu. Cette fois-ci, justement, à la manière de Spinoza, sans rire, sans pleurer, mais seulement en essayant de comprendre. Merci à vous.
Merci beaucoup, et puis à la prochaine fois.